VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 25 août 2016. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia et Anne Albertson. Tout d'abord, les titres.
Gabon, les observateurs de l'Union européenne insistent sur la transparence en prélude à la présidentielle de samedi.
En République démocratique du Congo, la propagation de l'épidémie de choléra inquiète les Nations unies.
En Afghanistan, 12 morts et 44 blessés dans l'attaque d'hier soir contre l'université américaine de Kaboul.
En Syrie, le groupe État islamique a été chassé de la localité frontalière de Jarablus par les forces turques et des rebelles syriens.
En Italie, poursuite des recherches pour retrouver des survivants au lendemain du séisme qui a fait au moins 247 morts selon un nouveau bilan.
Au programme également, notre segment spécial sur la présidentielle de novembre aux États-Unis.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Présidentielle au Gabon, les observateurs de l'Union européenne ont insisté sur la transparence à 3 jours du vote. Ils demandent que la compilation et la publication des résultats se fassent de manière à bâtir la confiance de tous les Gabonais. Eddy Issango.
Maria Gabrielle, la chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, rappelle dans un communiqué que la confiance dans la crédibilité et dans l'exactitude des résultats d'une élection est grandement renforcée lorsque le processus des compilations et des publications des résultats est conduit avec transparence et rapidité. Elle affirme avoir porté à l'attention de la commission électorale, CENAP, l'importance de fournir aux électeurs et au public des données détaillées concernant les votes par procuration, une mesure des transparences qui pourra renforcer la confiance dans les processus de vote. Selon Mme Gabrielle, les gouvernements gabonais et la CENAP se sont engagés à lui faciliter l'accès aux résultats de la compilation des voix à tous les niveaux. La chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne ne précise cependant pas si les autorités gabonaises acceptent de laisser les observateurs assister aux travaux de la commission électorale quand elle centralisera les résultats. Quelques 628 000 électeurs gabonais doivent désigner samedi leur prochain président pour 7 ans. Les résultats avaient été contestés par l'opposition en 2009 lors de la première élection d'Ali Bongo Ondimba, candidat à sa propre réélection.
Les Nations unies ont exprimé hier à Kinshasa leur préoccupation face à la propagation d'une épidémie de choléra en République démocratique du Congo. Épidémie qui a touché 15 000 personnes et fait plus de 380 morts depuis le début de l'année. Précision de Nani Talani.
La situation est très préoccupante. Le choléra est en train de se propager en RDC, où on a déjà franchi la barre de 15 000 cas et 382 décès depuis le 1er janvier, a déclaré Eugène Kabombi, chargé de communication de l'Organisation mondiale de la santé en RDC. D'après Florence Marshall, une porte-parole onusienne, cette épidémie poursuit son extension non seulement le long du fleuve Congo, mais aussi dans la province du Nord Ubangi, dans le nord-ouest de la RDC, à la frontière avec la République centrafricaine et le long de la rivière Ubangi. Pour Yves Wilmot, un porte-parole de l'UNICEF, il faut un travail de conscientisation des populations de la partie ouest du pays qui ne sont pas habituées à la problématique du choléra. Selon l'OMS, une réunion transfrontalière entre les autorités sanitaires de la RDC et celle de la République centrafricaine sera organisée dans les jours à venir afin de définir les stratégies communes de lutte contre cette épidémie. L'UNICEF affirme avoir mis du matériel d'hygiène et d'assainissement à la disposition de ses ONG partenaires afin de s'assurer que le risque de contamination soit réduit.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
12 personnes sont mortes et 44 ont été blessées dans l'attaque mercredi soir de l'université américaine de Kaboul, la capitale afghane, selon un bilan fourni jeudi par la police. Parmi les 12 morts figurent 7 étudiants, 3 policiers et 2 gardiens, selon l'agence Reuters. Les forces de l'ordre ont tué 2 assaillants pour mettre fin à l'attaque, qui a commencé par une forte explosion suivie de tirs, selon le récit d'un responsable policier.
Des centaines de rebelles syriens soutenus par les chars et l'aviation turque ont pris la localité syrienne frontalière de Jarablus aux djihadistes du groupe État islamique à l'issue d'une offensive éclair. Précision de Jean-Roger Bion.
Selon l'agence pro-gouvernementale Anadolu, seul un rebelle syrien a été tué et 10 autres blessés. L'agence d'Ogan a fait état de la mort de 46 djihadistes, ce qui n'a pas été confirmé. La rapidité de la reconquête de Jarablus a stupéfié les experts alors que la prise par les Kurdes de localités tenues par le groupe État islamique dans le nord de la Syrie, comme Kobané ou Minbej, avait nécessité de longs combats. L'armée turque, soutenue par les forces de la coalition internationale anti-djihadiste, avait lancé à l'aube ce qui a été sa plus importante opération militaire en Syrie depuis le début du conflit il y a plus de 5 ans. Les États-Unis apportent leur soutien, y compris dans les airs, à l'opération turque de l'autre côté de la frontière syrienne pour y repousser l'organisation terroriste, ont indiqué des responsables américains sous couvert d'anonymat.
Le vice-président américain Joe Biden a déclaré hier à Ankara comprendre les sentiments intenses du gouvernement et du peuple turc au sujet du prédicateur Fethullah Gulen, exilé aux États-Unis et accusé par Ankara d'être à l'origine du putsch manqué du 15 juillet. Joe Biden s'est par ailleurs excusé auprès du président turc John Lindon.
La visite d'une journée de M. Biden en Turquie visait à recoller les morceaux entre les deux alliés au sein de l'OTAN, dont la relation a été éprouvée par le coup d'État manqué et les appels impatients d'Ankara à une extradition de M. Gulen. À ce sujet, le vice-président américain a précisé qu'aucune preuve de son implication présumée dans le coup d'État raté n'avait été présentée. M. Biden, qui a assuré que Washington coopérait avec les autorités turques, a souligné qu'il reviendrait aux tribunaux fédéraux de décider du sort du prédicateur. Le vice-président américain a tenu par ailleurs à présenter ses excuses à M. Erdogan pour ne pas être venu plus tôt après le putsch raté. « Je m'excuse, j'aurais aimé pouvoir venir plus tôt », a déclaré M. Biden à M. Erdogan, qui avait reproché amèrement à ses alliés occidentaux, États-Unis en tête, de ne pas avoir été solidaire après le coup de force du 15 juillet. Pour sa part, le président turc a rappelé que l'extradition de M. Gulen, dès que possible, était sa priorité, ajoutant « Je pense que les États-Unis prendront les mesures nécessaires pour répondre aux attentes justifiées de la Turquie à ce sujet ».
Une enquête de l'ONU a établi que l'armée syrienne avait mené au moins 2 attaques chimiques en Syrie et que le groupe État islamique avait utilisé du gaz moutarde, selon un rapport que l'AFP a pu consulter. Ce rapport de 95 pages, y compris des annexes techniques, est le fruit d'une année d'enquête. Il a été transmis hier au Conseil de sécurité, qui doit en débattre le 30 août.
Le puissant séisme qui a frappé tôt mercredi le centre de l'Italie a fait au moins 247 morts, a indiqué jeudi matin la protection civile italienne. Le bilan n'a cessé de s'aggraver depuis la secousse meurtrière qui a ravagé et partiellement détruit plusieurs villages de montagne mercredi matin. La protection civile n'a en revanche toujours pas donné d'indication sur le nombre de disparus. Le chef du gouvernement italien a fait état de son côté mercredi en fin d'après-midi de quelque 368 blessés.
Le président Barack Obama s'est entretenu hier par téléphone avec son homologue colombien Juan Manuel Santos pour le féliciter d'avoir conclu un accord de paix définitif avec les rebelles des FARC, accord qui vise à mettre fin à 50 ans de guérilla. La conclusion d'un accord définitif a été annoncée hier à La Havane dans un communiqué lu par les représentants de Cuba et de la Norvège, les deux pays qui ont servi de médiateurs dans les discussions.
Au Brésil, le Sénat donne aujourd'hui le coup d'envoi du dernier acte du jugement en destitution de la présidente Dilma Rousseff. Sous l'égide du président de la Cour suprême, la séance plénière de 81 sénateurs décidera si cette ex-guérillera de 68 ans doit ou non quitter la présidence pour avoir maquillé les comptes publics et signé des décrets engageant des dépenses sans l'accord du Parlement.
L'interdiction du burkini sur plusieurs plages françaises, très critiquée en France comme à l'étranger, doit être examinée aujourd'hui par la plus haute juridiction administrative du pays, alors qu'au moins une musulmane portant un simple foulard a déjà été verbalisée. Rattrapée par le dernier épisode du débat récurrent sur la place de l'islam en France, le Conseil d'État doit réunir 3 juges qui devrait trancher dans les 48 heures et fixer ainsi un cadre légal très attendu. Le Conseil a été saisi par la Ligue des droits de l'homme ainsi que le collectif contre l'islamophobie après un arrêté anti-Burkini pris dans une commune de la Côte d'Azur qui, à l'instar d'une trentaine d'autres stations balnéaires françaises, a décidé de bannir des plages les tenues non respectueuses des bonnes mœurs et de la laïcité.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Éco, John Linden.
Le milliardaire Aliko Dangote est annoncé à Abidjan début septembre. Le site abidjan.net qui publie l'information fait savoir que le Nigérian y sera pour mettre un coup d'accélérateur au démarrage du chantier de sa cimenterie dans le pays. Aliko Dangote, apprend-on, devrait à l'occasion rencontrer le président ivoirien Alassane Ouattara. Ali Dangote entend consentir un investissement de 200 millions de dollars pour une capacité annuelle de 3 millions de tonnes. 1,2 milliard de dollars, c'est le montant de la somme que le Ghana va investir dans la transformation d'Achimota Forest, un parc de 360 hectares au nord d'Accra. Le président John Dramani Mahama a apporté son soutien à ce projet. Le parc sera progressivement rénové sur une période de 7 ans. Achimota Forest ambition de décupler sa fréquentation de 20 000 visiteurs par an aujourd'hui à plus de 600 000 visiteurs à terme et de considérablement relever ses revenus. Le gouvernement du Zimbabwe prévoit de supprimer environ la moitié des emplois dans le département de l'agriculture. D'après un fonctionnaire, l'administration du président Robert Mugabe a du mal à payer les salaires. Le Zimbabwe, qui consacre 82% de son budget annuel national au salaire, a annoncé qu'il ne serait plus en mesure d'embaucher de nouveaux fonctionnaires. Au ministère de l'Agriculture, donc, environ 8 000 personnes pourraient perdre leur emploi.
À présent, les sports avec Timothée Donakmaï. Bonjour. Match de barrage, retour de la Ligue des Champions hier mercredi.
Un but partout à Nicosie entre Apoel Nicosie et Copenhague, mais le club danois avance à la faveur du nul vierge de l'aller. Pas de problème pour FC Rostov, victorieux d'Ajax Amsterdam 4-1 après s'être imposé par 1-0 à l'aller. Salzbourg s'incline 2-1 face à Dynamo Zagreb qui avance. Qualification également pour Borussia Mönchengladbach qui a infligé un carton 6-1 à Young Boys Bern, déjà battu 3-0 à l'aller.
Le tirage au sort de la phase de groupe aura ensuite lieu ce jeudi à Monaco.
Le Real Madrid de Zinedine Zidane qui a remporté au printemps dernier sa 11e Ligue des Champions sera situé jeudi lors du tirage au sort effectué à partir de 16h temps universel. Personne depuis l'AC Milan en 1990 n'a réussi à conserver son titre de champion d'Europe d'une année à l'autre et les différents prétendants, au premier rang desquels le grand rival barcelonais et sa MSN Messi Suarez Neymar, se sont activés pour remporter à leur tour la lucrative C1 cette année. Au Bayern Munich, c'est Renato Sanchez, également vainqueur de l'Euro, et l'excellent défenseur central allemand Mats Hummels, qui ont rejoint un champion d'Allemagne entraîné par Carlo Ancelotti, l'homme qui avait ramené la fameuse décima, 10e Ligue des champions, à Madrid en 2014. Mais l'Atlético et la Juventus Turin ont également bien recruté, le premier en attirant l'argentin ex-Benfica Nicolas Gaetan et l'ancien Sévillan Kevin Gameiro, le second en s'attachant les services de l'homme le plus cher d'Italie, le goleador argentin Gonzalo Higuain. La Juve a en revanche perdu l'homme le plus cher du monde, Paul Pogba, parti de Turin pour revêtir le maillot de Manchester United, qui ne jouera qu'en Europa League, la petite coupe d'Europe.
Mort de l'ancien patron de l'athlétisme kényan.
Isaiah Kiplagat, ex-patron de la Fédération d'athlétisme kényane pendant plus de 20 ans, est sous le coup d'une enquête pour des faits présumés de dopage et de corruption, est décédé mercredi des suites d'une maladie. Fin novembre 2015, M. Kiplagat, son vice-président David Okeyo et son ancien trésorier Joseph Kinyua avaient été suspendus de leurs fonctions par la commission d'éthique de l'IAAF dans l'intérêt du sport.
«
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudiane. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Gabon, quelques 600 000 électeurs sont appelés aux urnes le samedi 25 août. Dans plus de 2500 bureaux de vote, ils auront à choisir parmi une dizaine de candidats, dont les plus en vue sont le président sortant Ali Bongo Ondimba et Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine. La campagne qui se termine demain vendredi a surtout été marquée par des invectives, accusations et contre-accusations, et chaque camp est convaincu de remporter la victoire. Le scrutin sera surveillé de près par des milliers d'observateurs nationaux et internationaux. Est-ce que tout est prêt pour la tenue du scrutin sous haute tension ? Idriss Fall, notre envoyé spécial à Libreville, s'est entretenu avec le professeur Guy-Serge Biyumba, président de la commission spéciale chargée de l'accueil des observateurs au Gabon.
Oui, en ce qui concerne la commission, tout est prêt, puisque nous nous chargeons du volet accompagnement des observateurs nationaux et internationaux à cette élection. Notre travail est de faciliter toutes les conditions matérielles qui vont permettre le déploiement des observateurs sur le terrain. Il s'agit essentiellement des documents d'identification pour permettre aux observateurs d'accéder au bureau de vote, leurs droits dans l'accomplissement de leur mission. Nous allons accréditer plus de 1000 observateurs sur l'ensemble du territoire national pour cette élection. Il y a à la fois des observateurs nationaux et quand je parle d'observateurs internationaux, il s'agit aussi bien des grandes institutions internationales telles que l'Union européenne, l'Union africaine, l'Organisation internationale de la francophonie, etc., ainsi que de nombreuses organisations non gouvernementales, des groupes de la société civile, du Cameroun, du Togo, du Bénin, etc.
L'Union européenne, ce serait là une première, non ?
Oui, c'est la première fois que l'Union européenne va mener cette mission d'observation au Gabon sur l'invitation du gouvernement gabonais.
Les observateurs, leur rôle, c'est quoi ? Est-ce que c'est après les élections de toujours dire que ça s'est bien passé ? C'est quoi leur rôle en réalité ?
Le rôle des observateurs est de pouvoir suivre le processus électoral, suivre les conditions dans lesquelles ce processus déroule de façon à identifier, si c'est le cas, tous les aspects négatifs qui peuvent être améliorés pour justement permettre à l'avenir des élections beaucoup mieux organisées et in fine faire en sorte que les élections soient des élections les plus transparentes possibles, les plus justes possibles, les plus sincères possibles. Donc c'est une mission donc d'accompagnement pour faire en sorte que les élections soient le moins contestées possible si d'aventure justement toutes les conditions d'une élection sincère, crédible et juste sont réunies.
Est-ce que vous pensez que ce sera le cas pour le scrutin du 27 août ?
Il existe au Gabon un code électoral. L'organisation des élections est encadrée par un ensemble de textes et tout ce qui sont peu ou prou impliqués dans l'organisation des élections sont astreints au respect des dispositions prévues en la matière et de ce point de vue, on ne peut pas douter que les élections se dérouleront conformément à ce qui est prévu par la loi et donc elles se dérouleront normalement.
Le professeur Guy-Serge Biyumba, président de la commission spéciale chargée de l'accueil des observateurs au Gabon.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
En République démocratique du Congo, poursuite à Beni, dans le Nord Kivu, du procès des rebelles présumés des ADF accusés de la responsabilité de l'insécurité et des massacres des civils dans cette région de l'est du pays. Plus de 150 d'entre eux, qui appartiennent à différentes nationalités, doivent être entendus par les juges de la cour militaire qui siègent depuis samedi à Beni. Précision de notre correspondant sur place, Charlie Kasereka.
C'est un procès attendu depuis longtemps dans la région de Beni. Jonathan Piema est avocat de la partie civile, devant lui une centaine de dossiers des victimes qui attendent réparation.
Je défends la cause des opprimés. La finalité de la procédure, c'est par un jugement d'abord. Et ensuite, nous voulons aussi que nous puissions être indemnisés comme partie civile parce que nous avions perdu. C'est un procès qui peut prendre beaucoup de temps. Il y a plus de 1000 victimes qui sont là.
La société civile de Beni demande également la comparution de tous les éléments de l'armée congolaise suspectés, mais aussi Djamil Munkulu, le chef des ADF qui se trouve aujourd'hui en Ouganda en prison. Gilbert Kambale coordonne les activités de cette société civile ici à Beni.
Il y a également certains officiers, que ce soit de la MONUSCO ou les hommes des troupes des FARDC, parce que là où on a tué les gens à 200 mètres, à 300 mètres, des positions, en tout cas on doit leur poser des questions ou participer comme renseignant ou comme prévenu, mais également Djamil Munkulu.
Pour les milliers de populations venues pour assister aux audiences, les attentes et opinions divergent concernant ces procès.
À mon avis, on peut dire comme ce sont des aventures. On est en train de voir. Non, ce n'est pas pour apaiser la population, c'est pour remonter encore la colère à la population. On n'a jamais vu qu'un corps d'un Ougandais ici, c'est toujours le militaire congolais, toujours le militaire congolais. Où sont-ils?
Mais as-tu à quoi satisfait?
Jusque-là, nous ne sommes pas satisfaits. On n'a pas encore eu la vérité sur les vrais commanditaires qui envoyaient ces ADF. Même 10 ans après, donc nous allons attendre la fin de ce procès pour savoir la vérité.
Les avocats qui assistent les prévenus à Dief se sentent incompris par la population des Beni. Maître David Mwambale dit défendre ses ADF au nom de son métier et de la concession de la RDC sur les principes et des présomptions de l'innocence de tout individu devant la justice.
Nous sommes constamment conspués, indexés par la population qui ne comprend pas comment nous pouvons jouer ce genre de rôle. Et nous nous rétorquons qu'il s'agit d'un travail que nous accomplissons conformément à la Constitution. Notre objectif n'est pas de les sauver. Nous, comme avocats, nous avons l'obligation des moyens. Nous n'avons pas l'obligation des résultats.
Les procès promettent d'être longs, mais la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu, siégeant en chambre foraine, promet d'aller jusqu'au bout. Charlie Kasereka, depuis la ville de Beni, pour VOA Afrique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
En République centrafricaine, la lutte contre l'épidémie de choléra se poursuit. Elle mobilise de nombreuses organisations nationales et internationales et selon notre correspondant sur place, les autorités sanitaires assurent que l'épidémie est en perte de vitesse. De Bangui, reportage de Freeman Sepila.
Selon un récent bilan fourni par le ministère de la Santé publique et l'Organisation mondiale de la Santé, l'épidémie du choléra déclarée début août en Centrafrique a déjà fait 19 décès pour 169 cas recensés. Docteur Michel Yao, représentant de l'OMS en Centrafrique.
En tant qu'agence technique en appui direct au ministère de la Santé, nous travaillons en étroite collaboration pour nous assurer que les cas sont détectés rapidement et qu'une réponse est apportée avec les équipes de réponse rapide que nous avons mis en place pour faire la détection, la prise en charge des cas, désinfecter les localités.
Pour stopper la progression de cette maladie, des ONG nationales et internationales se saisissent de la situation. Plusieurs points de riposte et de réhydratation sont installés le long du fleuve Oubangui. Médecins sans frontières a rendu opérationnel plusieurs unités de traitement dans les localités de Longo à 30 km le long du fleuve Oubangui, à Port Sao dans le 7e arrondissement de Bangui et sur l'île des Singes, Kembe et Banga. Emmanuel Lampaer, chef de mission MSF Belgique.
Pour le moment, il y a pas mal de cas notifiés, des suspicions, des alertes qu'il faut investiguer tout en continuant à garantir un accès aux points de réhydratation, aux unités de traitement et en continuant à longer le fleuve et à faire en sorte que tout cas alerte et de suspicion soit réellement investigué et puisse continuer à avoir un accès aux soins.
Au début de cette semaine, une fausse alerte a paniqué les déplacés du site de l'aéroport Bangui-Poko. Après examen du malade soupçonné, Virginie Maïkoua, ministre des Affaires sociales, intérimaire de la Santé, apaise les esprits.
Je voudrais simplement vous rassurer qu'il n'y a pas eu de cas suspect vraiment parmi les résidents du site Impo.
Mpoko. La personne qui est arrivée à Mpoko était venue au dispensaire qui se trouve au sein du site et nous avons réagi très rapidement pour le ramener au centre qui s'occupe des personnes qui sont suspectées. Et aujourd'hui, sur le site de Mpoko, je vous le dis, il n'y a pas de cas de choléra, ni sur les autres sites.
Plusieurs autres ONG, à l'exemple de Initiative et Recherche des Actions Concrètes de Développement IRAD, Oxfam et Absud, mènent également des campagnes de sensibilisation auprès des populations pour prévenir cette épidémie. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Présidentielle américaine 2016, la candidate démocrate Hillary Clinton maintient le cap en tentant de contourner la controverse suscitée par ses 15 000 emails récemment découverts ou encore le financement de la Fondation Clinton. Alors que l'attention est concentrée sur Hillary Clinton, le républicain Donald Trump profite de ce répit pour multiplier ses attaques contre sa rivale démocrate, mais aussi les appels en direction des minorités. Le point, Timothée de Longmaille.
La question des emails de l'ancienne secrétaire d'État, comme celle des dons à la Fondation Clinton, continue de faire des vagues, surtout après la récente analyse par l'agence Associated Press des activités de Mme Clinton au département d'État. Selon l'agence, plus de la moitié des personnes qui l'ont rencontrée alors qu'elle était secrétaire d'État ont fait des contributions financières personnelles à la Fondation Clinton ou l'ont fait à travers des compagnies ou des associations. Pourtant, la candidate démocrate se concentre sur sa campagne, n'ayant aucun projet immédiat d'interview ou de conférence de presse pour s'expliquer sur ses dossiers. Elle n'a aucun conflit d'intérêt avec les œuvres charitables de la Fondation Clinton, assure Robbie Mook, porte-parole de l'équipe Clinton, ajoutant que l'analyse d'Associated Press est biaisée dans la mesure où, dit-il, celle-ci ne prend pas en compte les rencontres au département d'État entre Mme Clinton et des responsables gouvernementaux ou étrangers. Pour l'heure, Mme Clinton devance Donald Trump dans les sondages d'opinion au plan national, si bien que ses conseillers jugent peu utile pour elle de se livrer à un exercice d'explication à ce stade. Son discours prévu ce jeudi à Reno dans le Nevada aura donc pour cible Donald Trump. Trump lui-même appelle à la fermeture immédiate de la Fondation Clinton et à la désignation d'un procureur spécial pour ouvrir une enquête à ce sujet.
A noter, Timothée, que le candidat républicain intensifie son offensive de charme en direction des électeurs issus des minorités.
Tout à fait. Lors d'une visite à Tampa, en Floride, un des états-clés de la présidentielle 2016, Donald Trump a promis, et je cite, « une bien meilleure vie aux Hispaniques s'il est élu à la Maison-Blanche ». Vous avez le droit de vous promener dehors sans être cible de tir. Vous avez droit à une bonne éducation pour vos enfants. Vous avez le droit de posséder une maison et d'avoir un bon emploi, a-t-il déclaré. Le candidat républicain a aussi réitéré son idée controversée de construire un mur tout le long des 3200 kilomètres de la frontière entre les États-Unis et le Mexique pour contrer l'immigration illégale. Donald Trump vient de recevoir un appui de taille de la part de la National Rifle Association. Ce puissant lobby des partisans du port d'armes dit avoir réservé une enveloppe de 2,7 millions de dollars pour une campagne télé en septembre et octobre en faveur du candidat républicain. Hillary Clinton a elle aussi reçu un autre précieux coup de pouce de son adversaire aux primaires, le sénateur Bernie Sanders, qui a promis de battre campagne pour la candidate démocrate cet automne.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Rio 2016, c'est fini, les Jeux sont faits. Le continent africain a décroché au total 45 médailles. C'est historique, mais cette question revient sur le tapis. L'Afrique fait-elle assez pour ses sportifs? L'athlétisme, par exemple, est-il bien géré pour encourager les nombreux talents dans les 54 pays africains? Quelle solution pour une meilleure moisson de médailles dans les grandes compétitions internationales?
vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h08.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.